Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dis toujours que c'est avec plaisir qu'on présente les auteurs qui sont à la librairie Mola et qui sont présents à la librairie Mola. Là, c'est non seulement un plaisir, mais c'est vraiment beaucoup de joie parce que il se trouve que Sébastien Laurent est un collègue à l'Université de Bordeaux et de l'Université de Bordeaux. Et puis, c'est tout à fait un petit peu dans, et fortuitement que je me retrouve à faire la présentation de son ouvrage. Donc, je suis très, très content. Et pour vous dire, j'allais dire, c'est pas que ce n'était pas préparé, mais on a convenu de déjeuner ensemble prochainement. Et donc, c'est entre-temps et depuis que j'ai appris que j'allais présenter ton livre. On va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vraie vie. Donc, on ne va pas se dire vous. Donc, Sébastien est professeur à l'Université de Bordeaux. Il dirige un master qui est le master Sécurité globale et analyse trilingue. Il pourra tout à l'heure expliquer précisément ce que ça signifie. Il enseigne, parce que c'est aussi un ancien de Sciences Po, point. Le Sciences Po, point, ça veut dire Sciences Po Paris. Hein. Et puis, il enseigne également à Sciences Po Bordeaux, entre autres dans le parcours de master politique internationale. Donc, on se connaît, il connaît bien notre institution, l'institution de l'Institut diplomatique de Bordeaux. Et par ailleurs, il est membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique et tu es consultant pour un certain nombre d'organismes et de questions de sécurité. C'est bien qu'il ne faut jamais poser peut-être la question à un auteur des choix éditoriaux et des choix d'illustration ou des choix de couverture. Hein. Mais quand même, je renonce pas à te poser la question. Est-ce que tu as eu à te prononcer? Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Et si oui, je vois que dans tous les cas, je ne sais pas si tu avais un droit de veto, mais en tous les cas, tu ne l'as pas appliqué, puisque la couverture est celle-ci. Moi, je la trouve très intéressante. On voit ici le logo des presses de Sciences Po, le logo prestigieux des presses de Sciences Po. Mais il y a ce côté, effectivement, ombre, flou. Hein, l'atlas du renseignement... en lettres qui apparaissent comme ça de manière pas très définie, et puis surtout le sous-titre ou l'intertitre « Géopolitique du pouvoir ». Alors, sur la forme d'abord, qu'est-ce que ça t'inspire? Puis surtout, pourquoi ce sous-titre « Géopolitique du pouvoir » Parce que là, pour le coup, c'est plus... ça tient davantage, je pense, à l'auteur qu'à l'éditeur.
Effectivement. Merci Jean pour ces paroles aimables. Merci d'avoir accepté cette charge amicale de présenter le livre avec moi. Oui, pour ce qui est de l'apparence du livre, disons qu'il faut être fair play, donc c'est un livre que j'ai écrit, et donc je vais tout assumer jusqu'au bout. Mais je dois dire que quand on m'a présenté la couverture, j'ai un peu sursauté, et les presses de Sciences Po, qui sont un éditeur universitaire et pas tellement commercial en fait, on pensait qu'il était possible, avec ce thème, avec ce titre, avec la façon dont ce thème était traité, eh bien qu'il était possible de faire un ouvrage à destination du grand public, ce que l'ouvrage était effectivement. Mais il fallait finalement donner l'apparence d'un ouvrage grand public avec un titre qui n'était peut-être pas. D'où le choix d'une agence qui s'est amusée. J'avais jamais fait de livre, vous en apercevrez peut-être. Donc, ce sont une agence qui fait du design d'habitude, et donc qui a fait une belle enveloppe pour un atlas qui demeure avant tout un outil pédagogique et qui est, comme je le dis au début du livre, le résultat d'une réflexion personnelle, mais d'une réflexion personnelle où j'ai été accompagné par des collègues, mais surtout, malheureusement, il n'y a pas assez de collègues qui s'intéressent à ces questions-là, mais j'ai surtout été accompagné par les étudiants de Sciences Po Bordeaux, les étudiants de l'université, bien sûr. Et donc, j'ai pu, au cours d'une dizaine d'années d'enseignement de ces questions-là, enfin sur ce thème-là, tester un certain nombre d'idées, essayer de voir comment on pouvait les faire comprendre. Et donc, l'Atlas est en partie le résultat de cette tentative. Et troisième point, alors le sous-titre « Géopolitique du pouvoir », qui évidemment est beaucoup plus discret que ce titre qui claque un petit peu, qui est rendu très apparent. Cette « Géopolitique du pouvoir », c'est peut-être une partie qui est moins clair. Il s'agissait tout simplement, et le livre entend expliquer une double dimension. Cet atlas du renseignement, c'est une façon d'expliquer comment les relations géopolitiques, qui sont devenus très très à la mode en France depuis une dizaine, quinzaine d'années, et il faut s'en féliciter. Comment finalement les rapports géostratégiques et géopolitiques s'expliquent en partie par cette dimension qui n'est pas nouvelle, qui s'appelle le renseignement, d'où le titre « Géopolitique du pouvoir ». Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est que cela n'éclaire pas seulement les rapports internationaux, ça éclaire aussi ce que sont les pouvoirs nationaux et les pouvoirs étatiques. Et une partie, un certain nombre de chapitres, de thèmes abordés dans l'ouvrage, traite de la façon dont les régimes démocratiques et libéraux sont confrontés à des organisations de renseignement, comment ils peuvent les contraindre, comment ils sont parfois contraints par ces organismes. Et donc, c'est une géopolitique du pouvoir qui explique les relations entre les États à l'international, mais aussi les contraintes et les possibilités qu'offre le renseignement dans le cadre d'un État. Et c'est pour ça que je m'inscris dans un cadre global, de sécurité globale, pour reprendre des termes un peu à la mode. C'est-à-dire que je n'ai pas souhaité faire un atlas du renseignement intérieur ou un atlas du renseignement extérieur. C'est le renseignement pour lequel les frontières existent assez peu, d'ailleurs, qui est présenté dans l'atlas, qui me permet de présenter son volet intérieur, les questions juridiques, éthiques, politiques posées dans un pays, et puis surtout son action et son utilisation dans les rapports de force internationaux sur l'ensemble du XXe siècle et plus particulièrement notre temps présent.
Alors, dans la note de l'éditeur, en quatrième de couverture, comme on dit, il est écrit de plus en plus, il y a une demande de transparence des sociétés post-démocratiques. Alors, on va y revenir, parce que quand tu disais cette géopolitique du pouvoir, ce n'est pas simplement la relation des États entre eux, c'est aussi la relation des États avec d'autres, des organisations qui font du renseignement, mais aussi, on peut rajouter, les sociétés civiles, qui sont de plus en plus émergentes. Est-ce que c'est une contrainte, entre guillemets, nouvelle, cette demande de transparence des sociétés? Toi qui es historien, tu es...
Alors moi, voilà, le petit avantage concurrentiel ou comparatif que me donne le fait d'être historien d'origine m'a amené à essayer justement de resituer l'ensemble de ces phénomènes sur une durée un peu longue. Oui. En gros, il y a un petit tiers de l'Atlas qui présente un ensemble de cas historiques assez célèbres et qui permet de voir comment les appareils de renseignement ont fonctionné ou dysfonctionné. Mais pour les deux autres parties qui sont beaucoup plus récentes et qui concernent la situation actuelle, j'ai essayé de les mettre dans une perspective historique, de les remettre dans un questionnement historique de long terme, pour essayer de faire ce que l'historien est amené souvent à faire, essayer de dégager les continuités et les ruptures, pour reprendre des choses très classiques qu'on enseigne dans les meilleures maisons, mon cher Jean. Et donc, alors au-delà du jeu rhétorique, parce qu'en fait c'est un jeu rhétorique, mais en fait c'est une question assez fondamentale pour les analystes notamment, et qui essaie de comprendre le monde contemporain. De ce point de vue-là, il est vrai que la contrainte de transparence, dont je parle beaucoup dans l'ouvrage, elle n'est pas tout à fait neuve. Elle n'est pas tout à fait neuve, c'est-à-dire que depuis deux siècles, et pas seulement en matière de renseignement, depuis deux siècles, toutes les structures politiques, quelles qu'elles soient, même quand elles ne se préoccupent pas de questions de sécurité, les administrations classiques, sont soumises à une pression médiatique et souvent juridique pour livrer de l'information, pour justifier leur choix, et elles sont d'ailleurs elles-mêmes des structures qui sont justiciables. Bon. Donc il y a tout un processus qui est un processus qui est le résultat de l'idéologie libérale, qui interroge, qui critique. Il y a une belle définition du libéralisme par Carl Schmitt, qui n'est pas un auteur vraiment libéral, qui dit que par nature, l'idéologie libérale, c'est une pensée critique du pouvoir. Et c'est très juste, ça définit très bien ce que c'est que le libéralisme historiquement. Cette idéologie libérale, elle questionne dans le temps long, depuis la fin du XVIIe siècle en gros, toutes les démocraties libérales jusqu'à aujourd'hui, en les contraignant à de la publicité. Finalement, le premier âge du libéralisme, c'est contraindre des structures administratives à rendre, à donner de l'information, à être public, à ne plus se cacher. Donc, pour revenir à ta question, la transparence, c'est le deuxième âge du libéralisme, si on reste dans une perspective idéologique. Et très souvent, cette question de la transparence, qui est abondamment traitée par les politistes américains, n'est pas assez mise dans une perspective historique. On a l'impression qu'il y a une espèce d'éclosion brutale de transparence.
Oui, d'efflorescence. Là.
Voilà. En fait, c'est une forme de libéralisme postmoderne, pour employer des termes un peu cuistres et compliqués, mais on ne peut pas le dire autrement. Donc la transparence aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que autant les organisations de renseignement ont très bien vécu le premier âge du libéralisme. Elles naissent en gros à la fin du 19e siècle et elles se déploient jusqu'à maintenant. Et elles sont toujours restées à l'abri d'une zone de secret dans laquelle l'État n'avait jamais à justifier. Et ce que l'on constate, ce que j'ai constaté pour toute une série de pays, je précise d'ailleurs que je parle finalement beaucoup plus du monde occidental, et j'assume ce terme un peu désuet, parce qu'il a un sens profond et véritable, je parle beaucoup plus du monde occidental dans cet atlas que de la France et de l'Europe. Je parle en fait beaucoup de l'Europe, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Bon. Et assez peu de la France, pour les raisons de, tout simplement d'accès à la documentation. Il y a beaucoup plus de documentation qui est accessible sur les pays anglophones. Et puis ça traduit aussi les rapports de puissance, hein, inévitablement. Et donc, si on regarde la situation de ces pays occidentaux, on constate que depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est l'ère de la transparence. C'est-à-dire que toutes les structures publiques, et notamment les organisations de renseignement, sont interrogées, sont questionnées, sont mises en question à un point tel que souvent cette véritable idéologie de la transparence remet parfois en question la légitimité de ces organisations. Et finalement, il y a une revendication qui considère, qui souhaite que l'État soit une sorte de maison de verre.
Oui, alors on verra que ça se fait avec des avancées, si tant est que ça soit des avancées, et puis des reculs, parce que
oui.
Tout ce que tu évoques en particulier sur les black holes, etc., sur les déplacements illégaux, etc., les restitutions illégales, bon, l'emploi de la torture, on va voir comment ça réussit quand même à freiner. Hein. Et puis on évoquera aussi sur cette poussée dans ce que tu appelles la transparence postmoderne, en quelque sorte, des situations différentes selon les États. J'étais frappé de voir que, par exemple, sur les fusion centers, la France n'est pas là, par exemple. Hein. Ça, c'est page 162 de ton livre, là, de mémoire, hein, 162, 164, 167. Hein. On voit qu'effectivement, il y a des situations différentes dans les États. Alors, je reviens au début du livre, parce que dans l'introduction, qui est tout à fait passionnante, tu écris, Sébastien, tu évoques un roman qu'on ne saurait que trop vous conseiller. C'est un livre de Rudyard Kipling, le Rudyard Kipling du Livre de la Jungle, hein, mais également très célèbre pour ce très beau poème qui s'appelle If, hein, qui est traduit en français « Tu seras un homme, mon fils ». C'est Kim, hein, Kim, qui a été traduit en français d'ailleurs par Joseph Kessel. Hein.
Ah, je ne savais pas.
Ça se passe en Afghanistan. Hein. Enfin, c'est dans Kim, il y a l'évocation du grand jeu. Hein, voilà. Et en fait, c'est les relations extrêmement subtiles et compliquées entre deux empires, l'empire russe et l'empire britannique, qui est présent aux Indes, et qui se joue un jeu depuis 1830, pratiquement, hein, jusqu'en 1907, hein, jusqu'à ce qu'il y ait la convention anglo-russe de 1907, qui va aboutir à la création de l'Afghanistan. C'est très passionnant, parce qu'on est en plein dans l'actualité, quand même. Hein, bon. Et page 8, tu dis de ton livre, au service de la force, le grand jeu n'aime pas la violence. C'est le renseignement placé au cœur de cet atlas. Et après, tu dis, on a aussi parfois parlé au sujet du renseignement et de la guerre des espions de crimes sans cadavres. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que dans l'imagerie populaire, bon, le renseignement, c'est plutôt des cadavres qui tombent un peu comme un gravelotte avec des balles en caoutchouc. Hein. Alors, est-ce que c'est ça, le renseignement? Et pourquoi on parle de crime sans cadavre?
Alors, je me suis un petit peu amusé avec deux, trois expressions. Cette expression de crime sans cadavre, elle est utilisée dans les années 60 par le service français de contre-espionnage qui s'appelle la DST.
Qui est l'ancêtre de la DCRI.
Voilà. De la DGSI.
La DGSI maintenant, voilà. ex-DCRI. Voilà.
Le service police, qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui s'occupe du contre-espionnage.
Dirigé par Roger Vibault dans les années 60.
Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est dans les années de Roger Vibault, un grand résistant, qu'on parle de l'espionnage comme un crime sans cadavre. Hein, parce que l'espionnage, il a toute une série de qualifications juridiques dans le code pénal, mais qui ne sont pas aussi clairs. Mmh. Et qu'est-ce que veulent dire les fonctionnaires de police de la DST? Eh bien qu'il y a un dommage, il y a un crime qui est créé, qui est le résultat de cet acte d'espionnage, mais qu'il n'y a pas de trace de ce crime. C'est-à-dire que la victime est en fait absente. Et donc ce crime sans cadavre, représente, à mon avis, très bien la difficulté à comprendre ce qu'est l'espionnage et la difficulté à lutter contre l'espionnage. Et quand on s'intéresse à une partie du renseignement, qui est donc le contre-renseignement, que l'on appelle le contre-espionnage, on constate toute la difficulté, alors là c'est vraiment dans l'enquête policière ou parfois dans l'enquête judiciaire, on constate toute la difficulté que les gens qui mènent ces enquêtes, qu'ils soient des policiers ou des magistrats, ont pour retrouver les traces d'un crime qui est fait absolument pour être le plus discret possible. Bon, c'est le cas de la plupart des crimes, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dissimulation depuis la conception de l'action jusqu'à son terme. Donc c'est pour ça que j'ai repris cette expression de crime sans cadavre. C'était aussi un clin d'œil un peu appuyé à toute une génération qui n'est plus dans les fonctions actuellement du contre-espionnage. Mais ça dit très bien la difficulté de lutter contre cet espionnage. Et puis, pourquoi Kim ? Eh bien, parce qu'on n'a jamais mieux décrit, d'une part, la naissance et les problèmes, disons, la difficulté principale à laquelle se heurtent tous ceux qui ont voulu envahir l'Afghanistan, mais surtout parce que c'est Kipling qui a créé ce terme de grand jeu. Et depuis, cette expression de grand jeu est devenue le symbole du jeu d'influence, de pouvoir qui, en fait, lorsqu'on le regarde, la confrontation entre l'armée tsariste et l'armée britannique en Asie centrale, et notamment dans la zone afghane, AFPAC pour être moderne, la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, eh bien, on s'aperçoit qu'ils se sont assez peu affrontés réellement. Il n'y a pas d'offensive militaire au sens classique du terme, ce sont des escarmouches. Alors, évidemment, toute la disposition géographique, notamment dans les zones tribales qui vont être le lieu où va être définie cette frontière si poreuse entre l'Afghanistan et le Pakistan.
Ce qu'on appelle le Waziristan.
Voilà, le Waziristan et les zones tribales, voilà, définies en 1907. Bon, évidemment, la géographie là n'est pas du tout favorable à des affrontements directs et à des affrontements militaires. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des deux côtés, du côté de l'armée russe comme du côté de l'armée britannique, on a privilégié l'influence sur l'affrontement armé. Et ça décrit très bien, Kim décrit très bien, ces jeux d'influence qui reposent principalement sur des actions de renseignement où il y a toute une chaîne qui va du militaire au politique. Et le but n'est pas d'exercer la force, c'est ce que j'ai voulu dire dans les lignes que tu as citées. Le but n'est pas d'exercer la coercition. Le renseignement, il ne débouche qu'accidentellement sur la force. Le renseignement, il va vers les jeux de l'influence, vers les jeux de ce qu'on appelle la guerre de l'information.
Donc on pourrait presque dire c'est pas de la course landaise, mais c'est une tauromachie sans mise à mort.
Eh bien, c'est la prochaine fois pour la réédition, j'y penserai, je te citerai. Effectivement, c'est cette idée. Idée. Et c'est pour ça que parfois, ça débouche sur un crime sans cadavre. C'est-à-dire qu'il y a une infraction. Une infraction, c'est un terme un peu judiciaire.
Mais on y reviendra, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les actions homo, hein, qui ne sont pas, je précise, ce n'est pas homosexuel, c'est homicide, hein, où là, il y a bien volonté d'éliminer physiquement, mais ça, on y reviendra. Hein. Alors, tu cites aussi Georg Simmel, qui a écrit sur Kim, tu dis, hein, et tu es d'accord avec Simmel. Simmel, c'est quand même un des grands noms de la sociologie américaine avec l'école de Chicago. Hein. Tu poses la question toi-même, derrière le secret, ce que nous trouvons est-il négligeable ou essentiel? Et tu ajoutes, voilà sur quoi ce livre entend lever le voile. Bon. Alors, c'est ambitieux, tu prétends lever le voile du renseignement, c'est ça. Mais est-ce que finalement, le renseignement, ce n'est pas une espèce d'oignon où quand tu enlèves une pelure, t'en as encore une derrière, encore une derrière, encore une derrière, et on n'arrive jamais à lever le voile, en fait, non ?
Tu as tout à fait raison, et je n'ai pas du tout l'ambition d'avoir dévoilé, d'ailleurs je n'utilise jamais ce terme, que je récuse,
non, tu
qui est une illusion.
Lever le voile.
Oui, lever le voile n'est pas dévoiler. Il peut y avoir des voiles. Le dévoilement, c'est cette idée qu'on fait apparaître la vérité. Et pour rester précisément sur cette comparaison d'une coque de multiples épaisseurs, d'un oignon avec ses multiples pelures, moi, je suis persuadé, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, que tout ce que je présente dans les quatrième et cinquième parties, qui sont les deux dernières parties, c'est-à-dire toute cette contrainte que font peser les sociétés, ou plutôt les lobbies, les groupes de pression qui entendent parler à la place des sociétés. Bon, parce que c'est encore une chose différente, mais peu importe. Toute cette pression qui s'exerce sur les organisations de renseignement, de fait, elle les contraint. Elle les contraint parce que ces organisations de renseignement, historiquement, elles sont nées dans le secret le plus total, et ce n'est que tardivement qu'elles sont face à la lumière. Mmh. Et qu'elles doivent rendre des comptes, qu'elles sont contrôlées administrativement, politiquement, judiciairement, parfois médiatiquement, etc. Et en fait, leur ADN, si cela avait un sens, mais je crois que la comparaison est peut-être, j'espère en tout cas, claire. Leur ADN, c'est le secret. Ces organisations ne savent pas faire et ne peuvent pas faire dans la pleine lumière des salons Mola. Autrement dit, face à cette contrainte, ça c'est une intuition, je suis incapable de le démontrer, mais je suis assez persuadé de cette idée, je ne le dis pas tellement dans la classe, je le dis un peu plus dans les cours, parce que c'est relativement compliqué à expliquer. Il n'y a pas de service secret et il n'y a pas d'État sans une marge, sans une autonomie. Et l'autonomie dont dispose l'État dans l'usage de la force ou dans l'usage de l'influence, l'autonomie dont dispose son bras armé, le bras armé de l'État, c'est-à-dire les services de renseignement, entre autres, ce ne sont pas les seuls. Cette autonomie, ça s'appelle le secret.
D'accord,
ouais. Et dès lors que l'on réduit ce secret, avec ses multiples contraintes judiciaires, politiques, médiatiques, les services, alors selon les pays, se rendent à cette obligation différemment, l'extrême étant les États-Unis, où les services, depuis 1975, ont consenti là des pans de dévoilement très importants, extrêmement importants. On pourra y revenir avec des exemples assez précis. Mais c'est aux États-Unis que là, les services sont les plus contraints. Eh bien, je crois que la seule façon pour les services de renseignement de résister à cela, c'est de se conformer un peu à cette contrainte de transparence et de dévoilement. Mais c'est également, et j'en reviens à cette comparaison très juste de l'oignon, c'est également recréer des couches de secrets. Et je suis persuadé que cette idée, chez certains idéologues qui sont très hostiles à tout ce qui est appareil coercitif, à tout ce qui est renseignement, etc., ils se trompent parce que plus ils accentuent la pression sur ces organisations de renseignement, plus ces organisations n'ont pas d'autre choix. Je ne porte aucun jugement. Mon approche, elle est purement, je dirais, technique et fonctionnelle.
Presque mécanique. Ouais.
Elle est mécanique, exactement. Ils n'ont pas d'autre choix que de recréer, alors soit du secret organisé, soit de l'informel, qui est une forme déguisée de secret, enfin bon, sans jouer sur les mots, etc. Et c'est évident que les États, et notamment les appareils de force, pour reprendre une expression russe très célèbre, les siloviki, les structures de force, elles ont besoin d'autonomie. Et cette autonomie, c'est le secret. Et quand on leur rogne le secret, elles recréent un secret qui n'est pas un secret légal, qui est un secret clandestin.
Alors, bon, j'avance, mais il y aurait vraiment matière à discuter. Tu évoques le renseignement qui n'est pas une fin en soi. Tu dis que c'est l'un des instruments de l'État, mais doté de moyens techniques et juridiques extraordinaires. Donc, c'est ce que tu viens d'évoquer. En page 11... Tu évoques la corrélation entre information et renseignement. Hein, et tu dis que les grandes agences de presse mondiales ont vu le jour quelques décennies avant les agences de renseignement. Alors, moi, je n'ai pas, ta connaissance et ta science de la question, mais j'en étais aussi resté à ce très beau livre de Gilles Perrault sur le secret du roi. Hein, qui raconte comment Louis XV, pendant 30 ans, a organisé, en tenant complètement à l'écart ses conseillers, son conseil des ministres, etc., par une espèce de passion à l'égard de la Pologne, pour tout un tas de raisons. L'idée, c'était d'installer Conti sur le trône de Pologne. Hein. Bon, je rappelle que c'était une monarchie élective. Hein, bon. Louis XV avait aussi secrètement... sans doute l'idée de reprendre une revanche sur la catastrophique guerre de 7 ans. Bon. Est-ce que tu dis que ce n'est pas ça l'origine des services secrets modernes, le secret de Louis XV?
Alors là, le cas du secret, de ce qu'on a appelé le secret du roi, c'est le titre du livre de Gilles Perrault.
C'est le secret du roi. Hein.
Voilà, c'est le secret du roi, mais c'est une expression que l'on va employer.
Ça s'appelle le secret du roi, la passion polonaise. Hein, le titre, c'est la passion polonaise.
Alors il a tiré un peu pour romancer, mais sur le fond, ça reste... un ouvrage très sérieux. Il s'est appuyé sur des travaux de Michel-Antoine et de Zanam qui sont remarquables, dont il s'est largement inspiré, mais tant mieux. Ouais. Mais peu importe, c'est une forme particulière de diplomatie parallèle. Qu'est-ce qu'il décrit, le secret du roi, et qu'est-ce qu'a fait Louis XV? Louis XV avait un secrétaire d'État, c'est-à-dire un ministre des Affaires étrangères, et ce secrétaire d'État avait des relations diplomatiques, comme dans tous les appareils diplomatiques classiques, des ambassades reconnues, etc., avec un certain nombre de prérogatives déjà à l'époque. Mais il a souhaité, pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, mais tu as fait des allusions, il a souhaité instaurer une diplomatie parallèle, avec des envoyés, plus un contact particulier qui assurait, vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis des contacts polonais, une diplomatie différente. Donc, ce n'est pas tant... Alors, ça passe par une collecte d'informations, la transmission de messages, etc., qui sont classiques pour les services de renseignement, mais pour l'ensemble des organisations publiques, oui, des acteurs publics.
Même diplomatiques.
Et même diplomatiques. Mais là, on a un domaine de l'action de l'État assez classique, hein, qui est né deux, trois siècles plus tôt, dans sa forme moderne, c'est-à-dire un appareil diplomatique que l'on va doubler. Et là, on est un peu dans ce que je disais tout à l'heure. Ouais. On recrée une couche de secret. Voilà. Donc, en fait, il y a une diplomatie officielle, c'est le secrétaire d'État, et puis une diplomatie officieuse qui est finalement la plus importante et qui traduit bien la volonté du roi.
Alors, les structuralistes diraient qu'il y a des homologies structurales qui sont impressionnantes.
Alors, je ne sais pas si on peut appliquer les schémas structuralistes à la compréhension de la politique royale de Louis XV, sa diplomatie, mais ça serait assez intéressant parce qu'en plus, si on prend la longue durée... L'histoire ne vaut que pour la longue durée, ça j'en suis persuadé, mais voir la très longue durée, on pourrait voir ces homologies structurales assez certainement. Mais ce n'est pas pour moi la naissance du renseignement dans son sens moderne. La naissance du renseignement dans son sens moderne, je ne le traite pas du tout dans le livre, parce que je me suis consacré au XXe siècle. C'est à la fin du XIXe siècle, lorsque tous les pays européens, ce sont les premiers à se lancer, à bâtir des organisations de renseignement modernes, se dotent d'organisations de renseignement en temps de paix.
Donc, par exemple, c'est pas dans le livre, mais l'affaire Dreyfus avec les fameux bleus, hein, le deuxième bureau, etc., c'est très récent par rapport à la création du renseignement militaire, du deuxième bureau militaire, par exemple.
Exactement, c'est 20 ans après, 15-20 ans après les débuts de la création des services de renseignement français qu'il y a eu cette affaire et manipulation. Ouais. Alors, je le dis pour les pays européens parce qu'il y a un contre-exemple. Ce sont les États-Unis qui se sont dotés, eux, d'un appareil de renseignement au niveau fédéral, bien plus tard,
Des années 30. Avec l'OSS.
Alors, en fait, un peu avant, avec le FBI, lorsque le bureau d'enquête devient un bureau fédéral, au milieu des années 30, et puis, effectivement, ensuite, tu as raison, avec l'OSS. Et c'est le contre-exemple, parce que toutes les puissances européennes, y compris d'Europe non continentale, c'est les Britanniques, se dotent entre 1870 et 1909 pour les Britanniques, d'organisations de renseignement spécifiques, hein, il y a une division du travail, elles sont spécialisées, et elles travaillent en temps de paix, pas tant dans un objectif de guerre que dans un objectif des tensions, de l'influence, du temps de paix.
Voilà. Alors, il y a cinq parties, hein, observer, influencer, agir, première partie, le renseignement face aux crises, deuxième partie, quand les États coopèrent, troisième partie, le renseignement dans les sociétés ouvertes, demain, et quatrième partie, et cinquième partie, demain, la fin du secret, la fin des États, point d'interrogation, qui évoquait les deux derniers chapitres, tout à l'heure, ton propos. Alors, on va prendre quelques exemples des coups de projecteur. Le premier chapitre est tout à fait passionnant, et en particulier, tu évoques, page 27, une histoire, hein, c'est souvent des chapitres de 2-3 pages, hein, au moins dans la première partie, hein, avec des cas très concrets. Hein. Page 27, tu évoques les cellules Stay Behind, anticiper une nouvelle guerre en Europe. Alors, pour celles et ceux qui s'intéressent à cette histoire, ça a été, entre autres, on l'a découvert dans un très beau, un documentaire d'ailleurs qui portait sur le Gladio, ce qui veut dire le glaive, hein, qui était une cellule mise en place par le SISMI, le service secret militaire italien. Alors, tu peux peut-être raconter ce que c'est que ces histoires de cellules Stay Behind, parce que c'est extraordinaire, c'est étonnant. Moi, je connaissais, ça m'est revenu quand j'ai vu que tu évoquais le Gladio, là, mais je ne connaissais même pas l'expression. Alors, Stay Behind, ça veut dire quoi?
Eh bien, ce sont des structures qui avaient pour fonction de se situer en arrière des lignes, Stay Behind. Se situer en arrière des lignes.
Alors, quelle ligne?
Les lignes de la guerre froide, les lignes du conflit qui allait éclater. C'est-à-dire que dès le début de la guerre froide, très tôt, hein, dès 46, hein, 46-47, les pays occidentaux qui vont ensuite intégrer l'Alliance Atlantique, qui est signée traité qui est signé en 1949, se préoccupe avant même la création de l'OTAN, et c'est un point très important, de s'organiser en vue de la Troisième Guerre mondiale, dont ils sont absolument persuadés qu'elle va surgir. Ça ne fait l'ombre d'un doute pour personne. On est vraiment dans les tensions extrêmes sur Berlin, en Corée, en Indochine, par Vietnam, dans l'Indochine française, la guerre a repris, etc. Bon,
En Grèce,
bien sûr, avec les maquis, etc. Bon, donc, la Yougoslavie a presque terminé sa structuration. Donc, la guerre est presque présente. Elle vient de s'achever, mais elle semble reprendre. Et c'est dans ce climat d'extrême tension, avant même que le traité de l'Atlantique Nord soit signé, qu'un certain nombre de pays occidentaux vont décider d'organiser des structures destinées, lorsque les soviétiques auront envahi l'Europe occidentale,
oui, c'est ça, parce que
pour se maintenir...
Pardon, Sébastien, pour bien comprendre, ils se projettent dans l'étape... Même, c'est même pas l'étape d'après, c'est l'étape d'après-après, c'est-à-dire ils ont été battus, ils sont envahis, et ils organisent la résistance à l'invasion des Rouges. On est
exactement.
Bien d'accord, hein. C'est pas des actions derrière les lignes ennemies au sens de... derrière le rideau de fer.
Non.
C'est... infra-rideau de fer dans la perspective d'une résistance après la défaite.
C'est exactement ça. La Deuxième Guerre mondiale, elle a fait découvrir une chose nouvelle à la guerre. C'est la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est la première guerre qui a fait découvrir à ce point-là l'importance de la clandestinité et de la résistance armée dans un cadre clandestin. Et donc, ils ont vite tiré les leçons de la force et de l'aide qu'avaient procuré les différents mouvements de résistance européens aux armées alliées, occidentale et soviétique, en recréant un futur cadre de résistance lorsque les soviétiques auraient remporté la première bataille.
D'accord.
Et auraient envahi l'Europe occidentale. Donc, que sont ces réseaux Stay Behind ? Eh bien, ce sont des petites équipes disséminées sur la plupart des territoires, il y a une carte qui le montre bien, et qui sont destinées à... Non pas à se lancer dans de la résistance armée, mais tout simplement à maintenir des contacts radio, à permettre le stockage d'armement en vue d'une future résistance armée, à avoir des moyens financiers.
Tu dis dans ce chapitre, c'est pas les services secrets traditionnels, c'est parallèle aux services secrets.
Oui, alors
qui sont ces gens-là ?
Alors c'est ça qui est très intéressant. C'est pas créé dans le cadre de l'OTAN parce que c'est créé avant l'OTAN. Ouais. On a beaucoup cru que c'était une structure parallèle de l'OTAN et ce n'est pas le cas. On a beaucoup cru que c'était les services de renseignement officiels qui sont tous créés donc à partir de 45. Or ce ne sont pas eux. Alors qui était-ce toujours dire le positif avant de dire le négatif. J'ai dit l'inverse parce que là-dessus, il faut être prudent et modeste. Que sait-on des Stay Behind ? On sait assez peu de choses et j'ai tiré le plus que l'on pouvait, je crois, des différentes enquêtes parlementaires qui ont eu lieu dans les années 90 du XXe siècle.
Ouais,
donc,
c'est très tardif,
lorsque en Italie, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, des commissions d'enquête parlementaires, des députés se sont préoccupés avec inquiétude de la découverte au moment de la fin de la guerre froide, 89-90, d'organisations qui étaient en apparence paramilitaires, qui ne dépendaient pas du ministère des Affaires étrangères, qui ne dépendaient pas des structures de l'OTAN, et qui semblaient ne pas dépendre des services de renseignement.
Et qui étaient armés, donc.
Alors, donc, on connaît très peu, on connaît absolument rien des Stay Behind en France. On est obligé de raisonner à partir des Stay Behind italiens, belges, luxembourgeois et suisses.
En Italie, et un tout petit peu allemands. En Italie, ils avaient quelques accointances avec l'extrême droite.
Alors, c'est tout le problème du début de la fin du processus, c'est qu'en fait, le secret a été éventé assez tôt. Dès 1952 en Italie, en Allemagne, des très bons journalistes allemands révèlent l'existence d'une forme d'organisation qui correspond effectivement au Stay Behind, même s'ils ne l'appellent pas comme ça.
Mais qui ne sont pas ce qu'on appelle les réseaux Gehlen, c'est pas ça.
Alors, c'est pas les réseaux Gehlen.
Non, c'est pas ça.
Les réseaux Gehlen, c'est le recyclage par la CIA des services de renseignement militaire allemand qui avaient travaillé principalement sur l'armée soviétique.
D'accord, plutôt l'Abwehr.
Voilà, c'est l'Abwehr, la partie militaire de l'Abwehr. C'est pas exactement l'Abwehr. Mais bon, considérons c'est ça. Et donc, c'est pas l'organisation Gehlen, c'est encore quelque chose d'autre. Ça illustre, ceci dit, quoi, ce que nous sommes en train de dire. Ça illustre que la question que tu posais tout à l'heure, les services de renseignement ou le domaine du renseignement, c'est une série de pelures successives. Et les réseaux Stay Behind l'illustrent très bien. Alors, bien évidemment, la révélation assez fracassante des liens qu'une partie des Stebbiani italiens entretenait avec des groupuscules d'extrême droite. Vous savez, dans les années 70, l'Italie avait un contexte politique extrêmement violent, avec un terrorisme d'extrême gauche qui est un terrorisme qui aboutit à de la criminalité politique très forte, déclenche un contre-terrorisme, je dis les choses rapidement, d'extrême droite, qui est tout aussi violent que le précédent. Et ce dont on s'est aperçu au travers d'un ensemble d'enquêtes judiciaires, c'est que l'on voyait du côté de ce contre-terrorisme de droite en Italie, eh bien, des liens avec une organisation que seront les réseaux Gladio, qui est la forme des Stebbiani italiens. Je suis désolé, c'est un petit peu compliqué.
Non, mais c'est
rendu plus clair dans l'Atlas, mais vous montre que si je parle principalement, même exclusivement, des services de renseignement, il a existé des formes parallèles, clandestines, très bien organisées et qui ont été un véritable succès parce que finalement, le dévoilement, il arrive dans les années 80, sous le double coup de la fin de la guerre froide, du fait qu'un certain nombre de gens parlent, et sous le coup des enquêtes italiennes, des enquêtes judiciaires italiennes. Mais pendant 40 ans, si je laisse de côté la petite crise en Allemagne dans les années 50, pendant 40 ans, cette organisation est restée totalement secrète. Et les formes de sa dissolution en France, c'est assez étonnant, hein, puisque à l'époque, Jean-Pierre Chevènement était ministre de la Défense, donc 89-90, et c'est à ce moment-là que le président de la République, il y a un communiqué de presse de l'Élysée qui est publié, et indiquant qu'il a confié à un officier général le soin de démanteler ses réseaux, et on n'en sait pas plus. Voilà. Et c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas eu du tout dans ce pays où le journalisme d'investigation, pour tout ce qui tourne aux articulations entre le politique, l'argent et les services secrets, est souvent assez actif, ça ne veut pas dire qu'il est toujours bon, eh bien, dans ce pays, les journalistes, il y en a d'excellents, ne sont pas du tout penchés sur ce domaine qui a su conserver un secret beaucoup plus poussé qu'au Benelux ou en Italie.
Alors, j'avance encore parce que c'est vraiment tout à fait passionnant. Un aspect, page 42, tu traites de la France-Afrique, du cas de la France-Afrique. Et tu dis d'abord, c'est important, que ce terme France-Afrique, il n'a pas été inventé par François-Xavier Verschave, c'est moi qui redonne le nom, comme on le pense souvent, mais par Félix Houphouët-Boigny, le grand leader de Côte d'Ivoire, qui était ministre et député sous la 4e République, avec un tout autre sens, évidemment, bien sûr, pas du tout péjoratif. Est-ce que ce qu'on a connu, c'est-à-dire Focard, la cellule Afrique de africaine et malgache, c'est le terme officiel de l'Élysée, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous même retour avec Chirac, il y a eu d'autres personnages, sous Mitterrand, Grosouvre, le premier conseiller de Mitterrand sur les affaires africaines, qui était du sud-est de la France, mais son nom m'échappe à l'instant, c'est pas grave.
Guy Penn,
merci, oui. Est-ce que on est vraiment... c'est du passé, tout ça, d'après ce que tu crois savoir, ou est-ce qu'il y a toujours cette relation privilégiée qui fait que la France aurait une espèce de précaré qui serait l'Afrique noire?
Alors, moi, sans être du tout un spécialiste de l'Afrique et de la France-Afrique en particulier, on ne peut pas dire de façon raisonnable que la France-Afrique n'existe plus. Certes, différents présidents de la République arrivent au pouvoir souvent en indiquant qu'ils mettront un terme à la France-Afrique, et ce n'est pas jamais le cas. Il y a des raisons très objectives et qui ne sont pas des raisons polémiques, qui permettent d'expliquer le maintien. Peut-être qu'il faudrait trouver un autre terme, parce que la France-Afrique d'Houphouët-Boigny n'est pas la France-Afrique d'aujourd'hui, et il faut peut-être s'en féliciter. Mais quoi qu'il en soit, cette relation particulière entre la France et l'Afrique noire, parce qu'entre la France et le Maghreb, c'est plus compliqué et bien différent. Donc la relation particulière entre la France et l'Afrique noire, elle est liée à des liens réciproques. C'est-à-dire que une vision un peu polémique comme celle de Verschave montre la France-Afrique sous l'angle d'une espèce de post-colonialisme à relent racial ou raciste, le maintien d'une domination, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des intérêts réciproques qui expliquent les la permanence de liens tout à fait particuliers entre la France et l'Afrique. Des intérêts économiques, des intérêts stratégiques. Les pays d'Afrique noire, de ceux du précaré africain, on a vu l'effondrement au Mali notamment, pour ne rien dire de la RCA, de ces armées, qui étaient déliquescentes. Ces armées et ces pays ont été sauvés par des accords de coopération militaire signés par Focard, enfin, rédigés par Focard en partie dans les années 60, et une grande partie de l'intégrité territoriale de ces pays, on oublie de le dire aussi très souvent, a été sauvegardée par l'armée française présente, par les armées françaises qui étaient présentes sur place. Donc il y a des intérêts militaires et stratégiques, il y a des intérêts économiques. Certes, un certain nombre d'intérêts économiques français font de bonnes affaires avec l'Afrique, mais l'inverse est vrai aussi. Un certain nombre d'acteurs économiques africains totalement autonomes et souverains font de bonnes affaires avec la France. Et donc je pense qu'il faut... Je ne porte aucun jugement moral, ni dans le livre, ni à l'instant en disant cela, mais je crois que sur ce sujet France-Afrique qui est devenu complètement polémique, il faut juste rétablir un certain nombre de faits pour être juste. Alors après, on peut avoir un jugement moral par ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de mon propos là. Mais je crois qu'il faut absolument rappeler cela pour bien expliquer que la France-Afrique, elle est une demande réciproque. Et effectivement, tu citais à juste titre ce que je dis au début du chapitre, c'est-à-dire que c'est une expression de Fouette et qui, pour lui, n'a pas de sens négatif. Voilà. Et alors ensuite, il y a des affaires beaucoup plus compliquées sur lesquelles je ne rentre pas.
Il y a une carte tout à fait passionnante où tu montres en particulier les interventions dans les changements de régime. Ah oui, j'ai retrouvé la petite coquille que je voulais te dire. C'est dans une carte. Il y a une flèche qui porte sur la Côte d'Ivoire alors qu'elle aurait dû être sur le Ghana. C'était un petit problème de carte.
Oui, ça, il faudra corriger. Voilà.
J'avance toujours. Il y a une référence tout à fait passionnante à un événement que vous connaissez peut-être parce que ça a été l'objet d'un film de Spielberg qui s'appelle Munich et qui montre la traque des auteurs présumés. Je dis bien présumés parce que tu dis dans ton livre que tous ceux qui ont été acteurs n'ont pas été éliminés et certains qui ont été éliminés n'étaient pas acteurs. Des auteurs présumés de la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 1972 par le Mossad, service secret israélien et extérieur. Je voudrais, dans le chapitre 2, qui s'appelle « Le renseignement face aux crises », il y a quelque chose de tout à fait passionnant et de tout à fait fascinant. Tu prends un certain nombre d'exemples. Tu prends l'affaire de Pearl Harbor et l'attaque japonaise sur Pearl Harbor qui déclenche l'intervention, l'entrée en guerre des États-Unis le 7 décembre 1941. Je dis pour les étudiants qui sont présents, mes étudiants, dont ils savent que j'avais toujours dit qu'une date, ce n'est pas une année, c'est un jour, un mois, une année et une heure. Alors c'est 7h49, la première frappe sur Pearl Harbor. Donc ça, c'est l'attaque japonaise. Tu cites la guerre du Kippour 73 avec cet événement tout à fait extraordinaire, le 25 septembre 73, soit 11 jours avant l'attaque du 6 octobre 73, le jour de Kippour. Le roi Hussein de Jordanie rencontre secrètement, c'est pas un conseiller du roi, le roi Hussein de Jordanie rencontre secrètement à côté de Tel Aviv Golda Meir, la première ministre israélienne, et l'informe d'une attaque imminente de la coalition syro-égyptienne. Prend un risque, tu le dis, politique absolument considérable, parce qu'il enfreint le minimum qui est la solidarité inter-arabe. Ça n'a pas d'effet. De la même manière que aux États-Unis, Roosevelt a plein de signes, des alertes. Il y a une frise extrêmement passionnante sur les alertes qui sont déclenchées pour prévenir les Américains, etc. Ça n'a pas d'effet non plus. Et corrige si je me trompe, mais la petite musique, le bruit de fond de tout ça, c'est une sous-estimation des potentialités de l'éventuel agresseur et une espèce de surmoi psychologique exacerbé qui considère que les autres, pardon de le dire comme ça, sont trop cons pour réussir à attaquer. Donc, les jaunes japonais ne vont jamais attaquer la puissance américaine. Et les Israéliens disent non, mais finalement, les Égyptiens et les Syriens, ils n'ont pas ce qu'il faut, et puis c'est des rhodomontades de Sadat, et ils ne vont pas nous attaquer non plus. Ça, c'est quand même très fort, parce que dans l'exploitation du renseignement, on voit qu'il y a une faille psychologique
des gouvernants qui est assez impressionnante.
C'est exactement cela. Et la conclusion générale de ce chapitre, plutôt de cette partie, le renseignement face aux crises, j'ai voulu étudier toute une série de crises internationales débouchant dans des contextes de conflits militaires ou de terrorisme, puisque je vais jusqu'au 11 septembre 2001. Et j'ai voulu essayer de montrer si l'on ne pouvait pas dégager une espèce de dominante qui explique ces surprises stratégiques. Surprises stratégiques dont les États-Unis sont l'objet de la part des Japonais, surprises stratégiques dont Israël est l'objet de la part des armées alliées arabes, surprises stratégiques dont les États-Unis, en septembre 2001, sont l'objet de la part d'une organisation terroriste. Et en fait, alors, j'ai mené, en m'appuyant sur des travaux absolument incontestables, une étude très précise. C'est pour ça que je fais des études quasiment jour par jour, sinon heure par heure, pour essayer de voir où est la faille. Où est la faille? Est-ce que ce sont les capteurs de renseignements, les forces armées qui n'ont pas vu les signes? Est-ce que ce sont les couches intermédiaires qui sont chargées de faire la synthèse de tout cela qui ont mal interprété? Ou est-ce que c'est l'échelon politique ou militaire supérieur qui a manqué? La conclusion générale, tu l'as parfaitement bien dite, c'est que dans tous ces cas, assez différents, hein, Pearl Harbor, etc., jusqu'au 11 septembre 2001, c'est que l'autorité politique, le chef politique qui est dans presque tous les cas en même temps chef des armées, c'est-à-dire vraiment l'autorité supérieure.
Le commandant en chef, comme vous
le
dites.
Commandant en chef, voilà, exactement. Le commandant en chef ou le chef des armées en France. Mais il n'est pas question de la France ici. Eh bien, dans tous les cas, il avait des éléments tangibles, concrets, des signaux, des indices recoupés d'une authentique menace, soit militaire, soit terroriste, localisée dans l'espace et située dans le temps. Autrement dit, aucun de ces événements n'est une véritable surprise stratégique. Et on peut même aller plus loin dans le cas de Pearl Harbor, où là c'est assez fascinant, c'est-à-dire que Roosevelt, et ça on le dit trop peu, aux États-Unis on le sait assez bien, mais Roosevelt a vu venir l'accident de façon très précise, et aujourd'hui on est assez net dans cette idée qu'il l'a laissé venir.
Oui, alors c'est quelque part...
C'est pas un échec du renseignement, c'est pas un échec des techniciens et des professionnels.
C'est la ruse du politique et c'est le cynisme du politique. La preuve, c'est qu'il fait partir des porte-avions 8 jours avant, enfin il leur fait quitter, et il les met à l'abri quelque part. Et si les porte-avions avaient été touchés, la bataille de Midway n'aurait pas connu ce qu'on a connu.
Elle n'aurait pas eu ce sens-là. Exactement.
Voilà. C'était une façon peut-être de forcer la main au camp isolationniste américain, nord-états-unien, qui ne voulait pas l'entrée en guerre.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et Roosevelt se trouvait face à une barrière de l'opinion et des groupes de pression tout à fait hostiles à une entrée en guerre. Dans le cas de Roosevelt, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a une commission d'enquête parlementaire qui se réunit dès 1945, même la fin de la guerre. Hein, je vous rappelle, la guerre, c'est septembre 1945. La guerre mondiale se termine en septembre 1945 sur le Missouri. Elle est signée sur le Missouri, sur les côtes japonaises. Et dès le début de l'année 1945, le Congrès américain fait son travail et mène un audit des différentes responsabilités et qui incrimine assez nettement le président des États-Unis. Mais de même qu'en 2004, les commissions parlementaires du Congrès américain, si on sait lire... ont commencé beaucoup plus modérément qu'en 1945, Roosevelt avait été incriminé. En 2004, les commissions du Congrès ciblent bien la responsabilité de l'autorité politique américaine de ne pas avoir pris les bonnes décisions au bon moment. Ceci dit, les signes étaient beaucoup moins nets en 2001, et on ne peut pas faire un parallèle entre les deux.
Justement, dans l'évocation du 11 septembre 2001, si je puis dire, tu ajoutes une dimension supplémentaire que j'ai trouvée tout à fait passionnante par rapport aux crises antérieures. Tu dis, page 87, la difficulté pour l'esprit humain à croire non pas probable mais possible une forme d'agression jamais survenue auparavant. Et j'avais envie de te poser la question, comment est-ce qu'un service de renseignement peut se comporter par rapport à ce blocage rationnel? Toi, tu parles 87, tu parles de blocage structurel. Parce que c'est un vrai problème, ça. C'est comment imaginer pour prévenir quelque chose qui n'a pas encore eu lieu?
Alors ça, c'est un très grand problème, absolument passionnant, qui fait appel, qui dépasse l'histoire fournit un matériau, mais en plus, après, pour essayer de comprendre ça, Il faut faire appel à la sociologie des organisations, aux sciences cognitives, voire à la psychologie sociale pour essayer de comprendre ça. Ça, c'est des choses auxquelles je m'intéresse depuis des années. Je l'ai fait, je mène ces travaux dans un autre cadre. Je ne l'ai pas du tout utilisé dans le cadre de cet atlas, mais donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail de tout cela. Mais c'est certain que qu'est-ce qui légitime, au fond, les moyens financiers considérables dont disposent les services de renseignement, les moyens légaux, souvent, qui sortent du droit commun, dont disposent naturellement ces services de renseignement, qu'est-ce qui les justifie, leur statut un petit peu à part, et les moyens à part dont ils disposent? Eh bien, c'est la nécessité, l'obligation qu'ils ont de parer à des formes de menaces diverses, et notamment à des menaces qui sont tout à fait nouvelles dans leurs manifestations. Autrement dit, ces services de renseignement, je prends les services de renseignement stratégiques, je ne parle pas d'une cellule locale qui fait du renseignement politique ou social, je parle là du renseignement stratégique avec des menaces de nature violente. Leur objectif, c'est d'être en permanence dans un questionnement sur le coût à venir dans une forme totalement nouvelle. Et donc, ça fait...
Le coût, c'est OUP, hein.
Oui, pardon. Le coût COUP, parce que le coût COU, accent circonflexe T, c'est un sujet un peu secondaire. Hein, et on peut penser...
C'est lié. Hein.
Alors, c'est lié, mais ce que l'on peut constater, par exemple, c'est aussi des travaux que je mène parallèlement, quand on regarde les budgets officiels des services de renseignement, on constate que ce n'est que depuis 2 ans que les moyens des services britanniques et américains ont commencé à décroître, par exemple. Mais jusqu'en 2011-2012... leurs moyens avaient cru de façon exponentielle depuis 2001. Dans le cas français, on va voir les lois de finances à venir, si elles respecteront ou non les lois de programmation militaire, mais les services de renseignement en France sont à l'apogée de leurs moyens budgétaires. On verra ce qu'il en est.
Maintenant, on connaît la ligne budgétaire allouée aux services de renseignement.
Oui,
Ça n'a pas toujours été le cas.
Alors justement, j'avais mené un travail d'expertise pour l'Institut Montaigne là-dessus au mois de juillet. Alors on connaît une partie du périmètre budgétaire des services, assez naturellement. Il y a toute une partie, notamment pour les moyens techniques, qui sont dissimulés dans des chapitres budgétaires, et c'est bien naturel. Donc on a une idée effectivement d'un ordre de grandeur des moyens des services, et c'est le cas pour tous les pays. C'est-à-dire
que, pour avoir une idée en France.
Alors en France, moi j'ai estimé cela à 2 petits milliards d'euros. La délégation parlementaire, enfin la commission parlementaire dit 2,3 milliards. Bon, moi je pense que c'est un peu plus en fait, hein, si on inclut tous les moyens techniques, etc. Ça peut paraître beaucoup, surtout par les temps qui courent, mais c'est assez peu en fait. Et si on pondère ça par le nombre d'habitants, les forces militaires, le budget des services français est nettement moindre que le pays avec lequel on peut effectuer une comparaison, c'est la Grande-Bretagne. D'accord. Il est supérieur à l'Allemagne, mais l'Allemagne a une autre histoire et une autre. Ces comparaisons ne sont pas faciles à mener, mais on peut très bien comparer les moyens de la France et de la Grande-Bretagne. Voilà. Donc je reviens à ces coûts COUP. Il faut avoir un coût d'avance. Et là, les structures de renseignement doivent faire preuve de quelque chose qui est humain, mais qui ne relève pas des organisations, ça s'appelle la capacité d'imagination, la créativité. Ouais. Et alors là, on rentre dans des choses qui sont des questions professionnelles pour les services de renseignement, qui sont rarement sur la place, parce qu'ils n'en parlent jamais, parce que effectivement, c'est la question centrale.
Ça pourrait donner des idées, surtout.
Ça pourrait donner des idées. C'est comment font des organisations qui sont des administrations, malgré tout, avec tous les phénomènes classiques des administrations, c'est-à-dire l'ossification, la faible souplesse, la difficulté de travailler dans un cadre hiérarchique, etc. Comment font-elles pour mettre en place des processus d'évaluation des menaces radicalement nouvelles, etc. C'est absolument passionnant de réfléchir sur ces questions-là. Voilà, dans d'autres travaux, j'ai essayé de faire une comparaison pour 3 pays et le pays sur lequel on a plus d'éléments, c'est les États-Unis, eux ont des structurations internes de leurs services de renseignement dans lesquelles ils donnent toujours la part et la place à l'avis contraire, l'avis opposé, depuis les origines.
Check and balance, quoi.
Exactement. La CIA, elle a été construite sur... On produit de l'analyse, mais on va confier une analyse totalement opposée à une autre équipe. Et à la fin, On va avoir les deux équipes.
On dit même que, par exemple, la CIA sous Bush était plutôt peuplée de gens de gauche. C'est idiot de dire ça parce que c'est aux États-Unis, mais il y avait un certain nombre d'experts de la CIA qui étaient plutôt issus des rangs démocrates, enfin, qui pouvaient être plutôt des situés sur un autre point de l'échiquier politique par rapport à Doumbia, enfin, à George Bush Jr.
Alors ça, c'est une question qui est très proche. C'est la question de la politisation des services, dont je parle aussi un petit peu. Il est évident que quand on a des organisations aussi massives comme la CIA, la NSA, etc., vous avez inévitablement, et c'est tant mieux, une diversité d'opinions politiques. Alors après, est-ce que les opinions politiques ont un effet sur la pratique professionnelle? C'est une autre question. Mais si on laisse de côté la politisation éventuelle de l'analyse, qui est un sujet en soi...
Ça permet d'éclairer.
Ça permet d'éclairer, bien sûr, parce qu'il ne faut pas être dans cette naïveté de croire que les organisations de force... sont neutres et appliquent une politique sur laquelle elles ne pèseraient pas. C'est pas du tout le cas.
Je voudrais qu'on termine notre échange parce que on va donner la parole à la salle. Page 158, on franchit les étapes du livre parce qu'on peut malheureusement pas tout traiter. Mais François, vous avez compris que c'est tout à fait passionnant. Tu évoques sous une référence un "Transparency is beautiful", qui c'est un slogan, à tout le moins une idée diffuse. Très valorisée dans le discours public. Elle incarne la forme d'openness qui s'impose désormais aux différentes composantes de l'État. Et tu distingues quatre critères de transparence, existence ou non d'un statut des services fixé par la loi, l'instauration d'organismes de contrôle, l'existence ou non de dispositifs législatifs en matière d'écoute téléphonique, et quatrième critère, la création des services, au sein des services, d'un poste de porte-parole ou d'une structure chargée d'entretenir des contacts avec l'extérieur. Comment se situe le renseignement français par rapport à ces quatre critères de transparence?
Eh bien, je le résume de façon imagée, donc je vais donner la réponse. La France, de ce point de vue, est en retard. Très en retard, même si on annonce tous les 6 mois la future loi sur les services de renseignement. La France est le dernier pays en Europe, avec Chypre, à ne pas avoir un cadre légal, un cadre par la loi, il y a un cadre juridique, mais qui relève du décret, c'est-à-dire du pouvoir réglementaire, pour les étudiants, mais il ne relève pas d'une loi, c'est-à-dire d'une loi débattue par les parlementaires. Donc ça, c'est un vrai indice du rapport au libéralisme politique, c'est-à-dire finalement, est-ce que les missions des services de renseignement sont débattues par les parlementaires? Cela n'a jamais été le cas. Donc la France, là, de ce point de vue, est en retard, et c'est assez... surprenant parce que depuis 7 ans, elle s'est lancée dans une réforme considérable. Son appareil de renseignement a été profondément modernisé, transformé, avec le début de la mise en place d'un contrôle par les parlementaires du renseignement. Mais les parlementaires ou les services ne sont pas allés jusqu'au bout de l'effort. La majorité actuelle a dit à plusieurs reprises, et le président de la République a fait une déclaration il y a 4 mois, disant qu'il avait demandé la préparation d'un texte en vue de donner un cadre légal aux services de renseignement. Je précise bien qu'il existe un cadre juridique, mais ce n'est pas un cadre légal. Il y a une différence qui n'est pas symbolique, qui est importante du point de vue de ces indices d'ouverture ou de transparence. Je pose la question dans la classe parce que c'est pour moi une façon d'évaluer, d'essayer de comprendre comment les services s'insèrent dans un système politique plus globalement. C'est aussi toute une partie de l'ouvrage. Je rentre dans l'étude d'un certain nombre de crises, du fonctionnement interne, mais je me pose aussi la question de savoir comment les sociétés contemporaines ou les régimes politiques contemporains acceptent, contraignent, n'acceptent pas, ne contraignent pas les services de renseignement, d'où cette idée d'une géopolitique du pouvoir qui est le sous-titre.
Ben voilà, je suis content qu'on revienne sur le sous-titre parce que vous avez compris la grande cohérence de cet ouvrage qui, entre autres, montre son originalité par cette dimension, c'est-à-dire la porte d'entrée, qui est peut-être celle qui est le moins pignon sur rue, mais qui est tout à fait passionnante pour comprendre aussi la structure des États et le fonctionnement des États aujourd'hui dans notre monde complet. Merci à toi, Sébastien.